Alors, comme vous voyez, le texte que nous allons voir aujourd'hui, la partie de la lettre, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 à 12. Mais un petit rappel quand même de ce que nous avons vu jusqu'ici. La fin du premier chapitre, les deux derniers versets, parle de la conversion de ces chrétiens à Thessalonique. Donc le chapitre 1 et les versets 9 et 10. Je vais lire ces deux versets. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Donc voilà, ces deux versets racontent, en bref, la conversion de ces chrétiens à Thessalonique. Et la conversion est un concept ultra important dans la Bible, dans le Nouveau Testament. À un certain moment, il y a un choix personnel à faire. On peut appeler ça la conversion, on peut appeler ça la nouvelle naissance, on peut dire qu'on est sauvé, bon, mais chacun doit faire cette démarche. Et si on veut comprendre qu'il faut une relation avec Dieu, si on veut même comprendre la vie, parce que les religions souvent ont tendance à dire que on est né dans un pays, on est né dans une famille, donc on appartient à cette religion, alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans la Bible. C'est un choix personnel de se tourner vers Dieu. Et pendant l'été, chaque fois que j'avais l'occasion de prêcher, on a tourné autour de ce sujet avec quelques textes dans les Actes, la conversion de Paul, par exemple, la conversion de Corneille, le concile de Jérusalem, où ils ont décidé que c'est la foi seule qui sauve et non pas la circoncision. Donc, c'est un thème vraiment très important. Mais, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui a amené les Thessaloniciens à se tourner vers Dieu? Ce n'est pas si évident aujourd'hui. Dans la société où nous vivons, les gens se sont tellement éloignés de toute connaissance biblique qu'il faut se poser la question, mais comment on va communiquer? C'est une des raisons pour laquelle une des raisons, il y en avait d'autres, qui fait qu'on m'a demandé pendant un an et demi d'accompagner cette union d'église en Lituanie. Parce que cette église a vu le jour dans les années 80, sous le régime soviétique. Moment de persécution, de difficulté. Hein. Les gens qui se convertissaient savaient qu'il y aurait un prix à payer. Et puis, c'est la fin du communisme, la chute du mur de Berlin, et des centaines de personnes se sont converties parce que tout d'un coup, ils avaient la liberté de chercher et les églises se sont remplies. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, ils constatent que toute la mentalité de l'Europe occidentale envahit aussi ces pays de l'ancien bloc soviétique et d'un seul coup, les gens, semble-t-il, se convertissent un peu plus difficilement. Il y a moins de conversion. Et ce n'est pas uniquement dans ce pays-là. Certains savent que je fais un peu de mentorat pour plusieurs pasteurs dans les pays de l'Est. Et cette semaine, un pasteur de Biélorusse m'a écrit pour dire que c'est exactement la même chose dans son église. Et il a du mal à le faire évoluer parce que les gens ne comprennent pas que les gens ne se convertissent pas aussi facilement qu'il y a 20 ans. Et ils pensent que c'est parce qu'il faudrait faire exactement les mêmes choses qu'il y a 20 ans pour que ça arrive, mais ce n'est pas le cas. Donc, je me suis posé la question avec le premier chapitre de Thessaloniciens, et encore aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a amené les Thessaloniciens à se convertir? Comment on convertit quelqu'un? La réponse est qu'on ne peut pas, c'est évident. Mais au chapitre 1, nous avons vu déjà trois choses qui sont des facteurs. Le premier, le verset 4, c'est qu'il y a le choix de Dieu, l'élection, ce sont des élus. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qui vous a choisis. Ensuite, il y a aussi la conviction du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été envoyé pour convaincre de péché. Et il utilise les mots prononcés par les chrétiens, verset 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. Donc il faut la conviction du Saint-Esprit. Et la troisième chose, c'est l'exemple de Paul, toujours verset 5. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Et je crois que ces trois éléments sont toujours vrais aujourd'hui. Il y a l'élection de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui doit convaincre, mais nous devons parler, et aussi nous devons vivre de telle façon que les gens voient la différence entre un chrétien et celui qui ne l'est pas. Donc voilà le résumé du chapitre 1. Et on va continuer avec cette même thématique, avec le chapitre 2. Qu'est-ce qui a amené les Thessaloniciens à se tourner vers Dieu, ou comment Paul a-t-il annoncé l'évangile à Thessalonique? Alors, avant de décortiquer cela, je vais lire ce texte, les 12 premiers versets de ce chapitre. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous rappelez, frères et sœurs, notre peine, notre fatigue, si on travaille en nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Et vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté, supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, je vous propose quatre choses ce matin à partir de ce texte. Comment Paul a annoncé l'évangile à Thessalonique. Enlevez Thessalonique, mettez Paris 17e, ou Dijon, ou Marseille, ou je ne sais pas quoi, parce que c'est toujours les mêmes principes qui sont là. Première chose, il a demandé le courage à Dieu. C'est les versets 1 et 2. Il est passé par beaucoup de souffrances, d'outrage et de combat, particulièrement à Philippe. Il était en prison. Il était en prison à Philippe. Il était chassé de la ville quand il arrive à Thessalonique. Et après, même à Thessalonique, il a connu des déboires, la racaille qui est venue s'opposer à lui, et puis il a dû fuir la ville en quelque sorte. Et les quelques chrétiens restés ont dû se porter garants, en quelque sorte, donc payer une caution pour que Paul ne revienne pas. Donc c'était vraiment les souffrances, les outrages, les combats. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Nous avons pris courage, Dieu nous a donné le courage. C'est une version de la Bible. Tu nous as donné toute l'assurance nécessaire. en conversion. Donc si on veut évangéliser, il faut du courage. Il faut du courage. Cette semaine, j'ai passé l'après-midi avec quelqu'un, un jeune homme, à peu près 35 ans, que je connais depuis mon temps au GBU, un frère que j'aime beaucoup. J'ai même célébré son mariage, quelqu'un que je connais bien, qui est venu me voir, pour discuter, on se voit de temps en temps. Et il travaille maintenant comme ingénieur dans une grande entreprise française, dont je tirerai le nom. Puis il passe à peu près le quart de son temps à voyager à droite et à gauche en Europe pour cette entreprise. Et donc avec les autres ingénieurs, avec son patron, ils passent beaucoup de temps ensemble. Le soir, manger dans des restaurants, faire des voyages ensemble. Donc, il a témoigné à presque tout le monde. Mais, son patron, son supérieur hiérarchique en tout cas, plutôt, se dit athée. Et à partir du moment où il a témoigné, il a commencé à, je cite mon ami, à me persécuter. de mauvaises évaluations, lui couper la parole dans des séances travail, enfin des choses comme ça, jusqu'au point où mon ami a dû voir un peu les ressources humaines pour dire s'il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Et donc les ressources humaines lui ont a proposé qu'il rencontre son supérieur et qu'ils en parlent directement. Bon, qui a reconnu que c'était vrai, au moins pour certaines choses. Donc il y a toujours des conséquences, malheureusement, parce qu'on dit c'est du prosélytisme. Heureusement, mon ami a lu les 5 livres publiés par le CNEF, libre de le dire. Donc il a pu dire non, ce n'était pas du prosélytisme. C'est un peu étrange en fait, parce que ce mot-là est de la propagande. En fait, quand on est entre collègues ou entre amis, on a le droit de discuter de la vie. Certains qui vont proposer une chose, un autre, etc. Du moment que ce n'est pas le christianisme, chacun peut dire son truc. Mais dès qu'il s'agit d'être chrétien, là c'est du prosélytisme. Cet été même, je parlais avec une dame, une voisine d'une de mes filles en Bretagne, qui a pris le goûter à la maison là où on était en Bretagne, parce que c'était l'anniversaire de notre petite fille, et elle a dit mon mari est parti à la forêt de Brocéliande avec un collègue, parce que ce collègue-là, il arrive à voir
les corrigans.
Il dit il est parti avec un collègue pour voir cela. Personne ne dit que c'est du prosélytisme, même si c'est un peu ridicule. Mais dès qu'on parle de Christ, c'est du prosélytisme. Donc, il faut prendre courage en Dieu pour parler au bon moment, pas à tort et à travers, donc ça c'est vrai. Mais dans les conversations, quand on pose une question, on répond. Ça c'est évident, c'est Colossiens 4 qui le dit. Donc, première chose, Paul a demandé le courage à Dieu. Deuxième chose, il a essayé de dire la vérité tout simplement. Il a refusé beaucoup de choses. Il a refusé la ruse. Le sommeur dit, ce n'est pas parce que nous voulions vous tromper. Certes, un commercial apprend des techniques pour vendre. Il y a des techniques. Il y a des techniques. Voilà. Mireille peut vous donner un cours. Elle a passé par là. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. On ne peut pas influencer les gens. On ne peut pas vendre la nouvelle naissance. Ce n'est pas possible. Donc on refuse les techniques bien rodées pour vendre. Pas de motif impur, il dit aussi. De motifs impurs. Et ces motifs impurs, malheureusement, il le dit très clairement au verset 5, c'est la soif de posséder ou Sommer dit, jamais nous n'avons tenté vous exploiter sous le couvert de bonnes paroles. Et malheureusement, il existe dans le monde des personnes qui annoncent l'évangile, sachant que ça peut rapporter. On fonde une église, on demande à chacun de donner la dîme, il suffit de réunir 10 personnes et on est tranquille. Et on peut aller même plus loin que cela. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La bonne motivation. Il refuse de plaire à ses auditeurs. Et comment on va plaire? Bon, en partie, parce qu'on ne va pas tout dire. On dit que la partie qui semble acceptable. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas chercher à comprendre ses auditeurs. Il faut parfois aller sur leur terrain, leur centre d'intérêt, leurs questions, pour rebondir avec l'Évangile. Et on le voit que Paul l'a fait à plusieurs reprises. Chez les Athéniens, par exemple, il a parlé de leur philosophe quand il était à Lystre. Il a parlé de leur récolte et tout ça, parce que c'était plutôt des paysans. Donc, voilà. Mais ce n'est pas ça. Il ne cherche pas à plaire ou à flatter les personnes avec lesquelles il parlait. Donc finalement, il ne cherchait pas non plus l'approbation des hommes, ou comme le Sommer le dit, être applaudi. Pourquoi ? Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. Donc si on attire la gloire sur soi-même, c'est plus le Seigneur qui aura la gloire. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Et c'est une certaine libération. Nous n'avons pas à vendre l'Évangile ou à impressionner. Parfois, dans des réunions d'évangélisation dans le monde, ça arrive moins souvent ici, on va chercher un footballeur ou quelqu'un qui s'est converti pour se dire, on va l'écouter, hein, parce que c'est un personnage, en quelque sorte. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, on cherche à dire les choses les plus simplement, les plus honnêtement possible. Et dans notre monde aujourd'hui, ce n'est pas aussi évident, parce que la notion de vérité est en train de disparaître quelque part. Mais en même temps, moi je me dis, je suis un grand amateur de la sagesse populaire, chasser le naturel, il revient au galop. Donc ça veut dire que les gens ne peuvent pas toujours refuser la vérité. Ou comme j'ai entendu un théologien que j'aime bien, il a dit, mettez quelqu'un au milieu de l'autoroute, il va savoir si les camions sont vrais ou non. Troisième chose, il a été comme une mère. Étonnant. Ben c'est ce qu'il dit, hein, au verset 6. Et au verset 6, il dit, nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres, mais en fait, il dit, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. En fait, le mot veut dire une mère qui allait. Et c'est la raison pour laquelle la traduction œcuménique de la Bible traduit « comme une mère réchauffe sur son sein les enfants qu'elle nourrit ». Donc c'est une façon de le dire. Donc c'est quand on dit hein, prendre soin de ses enfants. Paul est comme une mère pour les personnes qu'il rencontre. Ça veut dire une tendre affection. Et je pense que... En tant qu'homme, je peux le dire que les femmes sont souvent beaucoup plus relationnelles que les hommes. Et donc, mais Paul dit, mais vous-même, les hommes, même un apôtre, il faut que je sois un peu comme une femme, comme une mère qui prend soin de ses enfants. Donc, un vrai intérêt pour les personnes autour. Une vive affection, un tendre soin jusqu'au point de donner sa vie. En un mot, Enfin, c'est aimer, hein? Mais c'est un amour qui montre de l'intérêt et qui a de l'affection, donc pour les personnes que l'on côtoie. Et ça, il faut que vraiment qu'on l'apprenne. Ça ne coule pas de source. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de commandement d'aimer les autres, parce qu'on le ferait sans commandement. Mais bon, c'est un commandement. Mais Paul continue. Quel est-il comme un père? Il est dit aussi, au verset 11, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Je me suis permis, en fait, d'ajouter dans cette partie du Père, les versets qui précèdent, c'est-à-dire que les versets 9 et 10. Ce n'est pas lié en tant que tel dans le texte, mais je trouve quand même que ça tombe sous le sens. Les deux choses que le Père doit faire, c'est subvenir aux besoins de sa famille et éduquer ses enfants. Donc, d'abord, subvenir aux besoins de sa famille, c'est versets 9 et 10. Il dit, frères et sœurs, vous rappelez notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'Évangile. Il a dit, je vous ai donné un exemple d'ailleurs, dans 2 Thessaloniciens plus tard, il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Parce qu'en fait, c'est normal de se prendre en charge et de prendre en charge sa famille. Et c'est assez intéressant parce que Paul revient à plusieurs reprises sur le fait qu'il ne voulait pas être à charge. Par exemple, dans Acte 18 et le verset 3. Il dit ceci. Bon, d'abord, il arrive à Corinthe et comme il avait le même métier que Aquilias et Priscille, ils restaient chez eux, ils travaillaient ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Et puis au chapitre 20, quand il fait venir les anciens d'Éphèse, donc encore une ville différente, chapitre 20, les versets 34 et 35, il dit, vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Et en tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, petite parenthèse, Paul dit aussi, par exemple dans les Corinthiens, que est-ce que seul lui et Barnabas étaient obligés de travailler, obligés de voyager sans épouse, à la différence de Pierre, est-ce que lui seul, etc. Il dit non, non, c'est normal que d'autres soient soutenus par les chrétiens. C'était la conviction de Paul. De ne pas le faire. Et dans Galates 6, le verset 6, il dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc c'est normal dans ce sens de pouvoir recevoir. Maintenant, chacun a sa conviction. Pendant 20 ans à Nancy, donner des cours d'anglais pour subvenir à mes besoins. L'Église n'a jamais rien donné, d'ailleurs même les autres églises depuis, parce que c'était ma conviction personnelle de faire comme ça. Maintenant, les deux cas de figure existent. Mais le principe reste, c'est que Paul veut montrer son sérieux et que l'on doit prendre ses responsabilités. Et c'est certainement une des raisons pour laquelle chaque chrétien dans une église qui travaille, comme tout le monde, est un très bon témoin du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas lui dire, bah, tu profites, etc., de ton église pour vivre, etc. Donc c'est très bien, c'est très bien. Donc, je pense que cet exemple-là de père de famille, qu'il a été pour les Thessaloniciens, me parle. Et cette semaine, je pensais à mon père, assez timide, assez taciturne. C'était l'époque, un petit peu, les gens étaient comme ça. Mais il était artisan à son compte. Il a toujours travaillé très dur pour que moi et mon frère et ma sœur puissent vivre, aller à l'école, qu'il y a de quoi manger sur la table, qu'on ait quelques jouets, qu'on ait quelques livres et tout ça. Et je pense que avec le recul, certainement, il souffrait beaucoup plus que ce qu'il communiquait en quelque sorte, hein. Donc, il s'est certainement privé lui-même pour que nous puissions donc vivre. Et c'est un très bon exemple. Je pense que chaque homme, en quelque sorte, doit prendre ses responsabilités dans ce sens-là pour subvenir aux besoins de la famille, même si aujourd'hui, c'est évident pour les raisons pratiques, les femmes sont souvent aussi au travail, parce que c'est difficile de joindre les deux bouts avec un seul salaire. Et il y a certainement d'autres éléments. Mais malgré tout, je pense qu'il y a un élément là qui correspond à la psychologie masculine de vouloir assumer et subvenir aux besoins de sa famille. Et Paul le fait également pour l'Église. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il éduque également les premiers chrétiens. Ce qui montre, et c'est intéressant, que pour lui, l'évangélisation ne se terminait pas au moment où quelqu'un se convertit. Il fallait aussi s'occuper de ceux qui se tournaient vers le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il fait au verset 12? Et il dit, j'ai été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu. Donc là encore, il faut que des hommes prennent leurs responsabilités. J'ai peut-être déjà raconté ça, mais c'était il y a quelques années en Guadeloupe, où j'ai célébré le mariage d'un couple de notre église du Blanc-Mesnil. Et donc la veille, on était à la mairie. Donc le maire fait toute la cérémonie, puis le maire fait un petit discours. Et à un certain moment de son discours, il se tourne vers la femme et dit, maintenant madame, vous qui allez éduquer les enfants. Donc voilà, dans la République française, c'était la mentalité guadeloupéenne qu'il a emportée sur quand même le véhicule de la République. Certes, la maman doit éduquer les enfants, mais le père aussi. Et le père a ce rôle souvent de venir avec sa grosse voix gronder un petit peu et aussi donner cette éducation pour que la conversion soit suivie des faits. Nous l'avons chanté tout à l'heure et après je vais lire une citation que j'ai trouvée cette semaine. Tel que je suis, je viens à toi. Et il y avait une ligne après qu'on a chanté pour tout changer. Et donc la citation que j'ai trouvée cette semaine, je ne sais pas qui l'a dit, Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. J'ai trouvé une très bonne façon de le dire. Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et vous nous transformez. Et donc, on termine à la fin de ce message avec la fin du verset 12. Il nous appelle donc à son royaume et à sa gloire. Ça, c'est la finalité. Son royaume, là où Jésus est roi et a partagé sa gloire, que l'on commence à vivre déjà un peu sur la terre, mais que nous connaîtrons parfaitement dans l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle on annonce l'évangile. Parce que finalement, ce n'est pas simplement je vais aller un peu mieux avec le développement personnel, je vais connaître Dieu. Et je vais vivre avec Dieu, et ça pour l'éternité. Amen.